procès de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, s'est donc ouvert.
L'ancien Premier ministre François Fillon ainsi que son épouse Pénélope Fillon ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs.
Avant d'être le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler a siégé au conseil d'administration des chantiers navals de Saint-Nazaire en 2010. L'association Anticor a déposé une plainte pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence.
Aquilino Morel tente d'entrer dans la lumière à plusieurs reprises. Désormais, il sera l'homme de l'ombre.
Pénélope Fillon, Aquilino Morel, Alexandre Benalla, Alexis Kohler, quand on entend parler des collaboratrices et des collaborateurs politiques, c'est souvent pour de mauvaises raisons. Trop payés par nos impôts, trop puissants sans avoir été élus, symboles du népotisme ou de la technocratie, ils alimentent tous les fantasmes d'une opinion qui ne connaît au fond pas vraiment le rôle de celles et ceux qui assistent nos élus. Ce métier, je l'ai moi-même exercé, sans profiter d'un réseau familial qui évolue loin des arcanes politiques, sans en tirer d'avantages personnels, parfois même sans être payés. Et beaucoup, beaucoup d'autres assistants politiques, des milliers, sont comme moi. Ils travaillent en région, à Paris, à Bruxelles, auprès d'une députée, d'une commissaire européenne, d'un ministre, d'une maire, d'un président de région. Ils sont à la conquête du pouvoir ou déjà dans l'exercice de l'État. Le cœur de leur métier, c'est avant tout leur engagement. Pendant 3 ans, j'en ai rencontré des dizaines. Et certains ont accepté de me raconter la réalité de leur vie, la vie de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre des politiques. Je suis Mao Chaudouet-Delmas. Vous écoutez Les Ombres, un podcast de Slate.fr.
La politique, de manière générale, c'est du relationnel.
Soit tu t'engages, soit tu t'engages pas. C'est 0 ou 100%.
Il faut vraiment avoir une carapace et il faut travailler.
Oui, les rapports peuvent être assez durs.
Ça demande tellement d'armure émotionnelle, de résistance au stress, de résistance à la pression, chaque jour.
Les collectivités et institutions ne sont pas très regardantes sur ce qui se passe dans le bureau, quoi.
Tu te rends compte que tu n'avais d'existence que parce que tu étais dans le prolongement du politique, quoi.
Non, pour de vrai, j'ai plus de vie sociale pratiquement. Je peux pas sortir le week-end parce que le week-end, soit je travaille, soit il faut que je dorme parce que sinon j'arrive pas à récupérer la semaine. Donc c'est vrai que c'est un niveau qui est ultra stimulant parce que du coup on est en contact avec plein de sujets différents, on apprend énormément, il y a un ruisseau d'informations qui ne s'arrête jamais, mais c'est aussi hyper stimulant intellectuellement. Après, voilà, ça prend beaucoup de temps. Moi, personnellement, le week-end, je dors ou je travaille. Je peux rien faire d'autre. J'ai l'impression d'être toujours fatiguée. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas eu la sensation d'être en forme.
À quoi elle ressemble, la vie de ceux qu'on ne voit jamais ? Marie, 26 ans, ancienne conseillère ministérielle à l'économie, nous l'a dit à l'instant, elle n'a quasiment plus de vie sociale. Parce que la politique, pour les collaborateurs, c'est totalisant. C'est un métier de passion, d'émotion, de partage. On y rencontre ses amis, ses amours, sa famille. Jonathan travaille depuis 15 ans en politique. Il a été en cabinet ministériel et en conseil régional. À 35 ans, il est aujourd'hui directeur de cabinet d'un élu d'une grande ville.
Ce dont je peux témoigner après des années d'expérience, c'est que l'engagement politique est très fort en relations interpersonnelles et on partage aussi, à travers la camaraderie, des événements de vie personnelle qui peuvent être très forts et parfois très durs. Il y a tout un tas, par exemple, de camarades militants ou de copains militants, comme on dit, que je revois régulièrement aux enterrements. Par exemple, quand on a perdu un vieux camarade ou quand il y a une disparition, on se retrouve comme ça, tous ensemble, pour accompagner notre camarade ou ses proches. Et c'est des choses assez fortes qu'apporte le militantisme et l'engagement politique. Ouais. Comme on peut aussi partager des moments de joie, des naissances ou autres, hein, ou des mariages. Mais c'est vrai que l'engagement politique apporte de l'amitié et aussi ce qu'on appelait le sens du parti. C'est-à-dire que moi, quand j'étais salarié d'un parti, on avait vraiment le sens du parti. Et c'était inimaginable, par exemple, de ne pas aller dire au revoir à un camarade à son enterrement. Ça faisait partie du sens de parti. Je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose qui est en voie de disparition, ça.
S'il y a bien quelque chose qui définit la vie des conseillers politiques, c'est le caractère aliénant de leur fonction. Par passion pour son métier, par adhésion aux causes qu'on défend, par fusion avec son élu, on ne compte plus ses heures, jusqu'à en oublier sa vie personnelle.
La gestion, enfin la frontière vie publique-vie privée n'est pas toujours facile à gérer quand on travaille dans le monde du politique. Parce qu'on est militant, parce que souvent, au départ, et que on va avoir tendance à faire plus qu'un simple métier. Donc à mettre aussi des tripes ou de l'engagement personnel. Pour ma part, quand j'avais 25 ans, que j'avais aucune contrainte familiale ou autre, je pouvais travailler slash militer tous les jours de la semaine. Et a fortiori, si vous êtes investi dans un appareil politique, par exemple, qui sont des machines à instance, etc., vous vous retrouvez accompagner votre boss la journée, mais le soir à faire le comité local, le mardi soir ça va être le comité départemental, le mercredi soir la commission de résolution des conflits. Bref, vous pouvez très rapidement vous retrouver dans quelque chose qui est extrêmement englobant et très prenant sur la vie privée. Moi, il y a eu plusieurs années de ma vie où je travaillais les week-ends, où j'allais faire des campagnes en plus de mon travail et où vraiment c'était l'essentiel de ma vie, quoi. C'était j'avais mes amis, les amis que je voyais le plus, c'était mes camarades militants. Et il y a un véritable enjeu et qu'il faut savoir gérer. Après, pour moi c'est des cycles, c'est-à-dire que je suis très content par exemple d'avoir eu ce cycle de ma vie très intégré où la politique prenait énormément de place, où mes amis étaient des copains militants qui me prenaient toutes mes soirées, tous mes week-ends. Et ça m'a apporté énormément en termes de richesse humaine, de structuration politique. Et d'un autre côté, je suis aussi content d'en être sorti à un moment donné, parce que cette chose très englobante qu'est la politique peut aussi avoir des effets pervers, et notamment de vous mettre des œillères. Finalement, c'est un peu comme les bulles Facebook. On se retrouve entouré que de gens avec qui on partage les mêmes idées et on finit par être un peu bête et méchant, quoi, et à perdre un peu de libre arbitre ou de sens critique. Ça, c'est un peu le revers de la médaille d'un engagement militant très, très intégré. C'est très bien de tout donner et d'aller très loin dans l'engagement. Il faut aussi savoir prendre un peu de recul. Après avoir pris des distances par rapport au parti politique dans lequel j'étais engagé, pour lequel je continue à voter, hein, il ne s'agit pas de dire que c'est pas des questions de rupture nécessairement, c'est juste des questions de prise de distance. J'ai voulu me retirer aussi des réseaux sociaux et donc j'ai pris mon compte Twitter et j'ai commencé à effacer un par un tous mes tweets. Et je me reconnaissais pas vraiment, en fait. J'ai rebalayé toutes ces années de militantisme et je me voyais finalement ressasser les mêmes éléments de langage que mes camarades et être annonner les mêmes trucs toujours. Et je me trouvais bête, quoi. Je voyais pas de plus-value. Il y avait rien d'extraordinaire dans ce que je disais. Et ça m'a pas plu, cette image-là que ça a renvoyé de moi-même. Et donc j'ai tout effacé. Et demain, je me dis que je vais essayer de tirer le meilleur de ces deux vies. C'est-à-dire, je suis très heureux et reconnaissant envers ma famille politique de m'avoir apporté une colonne vertébrale, des rencontres. Mais je vois aussi les limites que ça a. Et aujourd'hui, je voudrais garder ça. C'est-à-dire, le meilleur de ça, c'est un héritage extraordinaire. Mais aussi garder une capacité à être critique, pas être d'accord sur certains sujets. Et c'est pas grave.
Sur les horaires, sur la manière de travailler, moi c'est vrai que c'était assez spécifique parce que je fais de la presse, donc vous êtes très dépendant des actualités extérieures, des demandes, etc. Elles s'arrêtent pas du tout le week-end, elles s'arrêtent pas le soir, avec les chaînes d'infos en continu, vous pouvez être appelé n'importe quand pour devoir écrire un point de vue et votre élu aille en direct dire ça, en essayant de pas écrire de conneries.
Pendant 3 ans, Lorraine fut la conseillère en communication d'un adjoint au maire d'une grande ville française. Elle se souvient de la tyrannie de l'information en continu qui, selon elle, rythme la vie des élus et vampirise le quotidien des femmes et des hommes de l'ombre.
Il y a le JDD tous les dimanches, qui est un moment politique, qui prend sur la vie des collaborateurs en presse chaque week-end, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Il y a les grandes émissions politiques de radio le dimanche. Enfin, c'est un moment où il y a du contenu politique qui sort et donc qui oblige souvent les collaborateurs à réagir. Vous avez Twitter où là, vous avez un flot de questionnements, de critiques. Et c'est vrai que si votre élu est attiré à l'œil sur une de ces critiques, il va vouloir répondre. Ce flot médiatique, en fait, envahit aussi les élus dans leur manière de travailler. Ils sont très attirés par la presse et les médias en général. Hein. Et donc, finalement, ce flux est continu. Il ne s'arrête pas le week-end, il ne permet pas de faire des pauses, il ne s'arrête pas en vacances. Et c'est vrai que pour les gens qui le sont, ils le savent, quand vous êtes le contact d'un journaliste, il est entendu que vous devez lui répondre le plus vite possible. Ou sinon, vous aurez telle institution ou tel élu n'a pas voulu répondre. Ce qui, en termes de communication politique et publique, est plus compliqué que dans le privé. Parce que dès que vous avez des questionnements sur la sphère publique, il est quand même logique dans une démocratie que vous y répondiez. Mais le problème, c'est que le flot avec les réseaux sociaux est devenu tel qu'il est très difficile de séparer le prioritaire du superflu. Et donc, ça participe à cette espèce de fatigue généralisée, le fait que ce soit permanent, que ça ne s'arrête pas, et que ça empêche souvent d'avancer sur des dossiers ou des sujets de fond parce que vous êtes percuté par l'actualité. Et voilà, notamment dans les dernières années, entre les gilets jaunes, l'actualité a aussi été pour le coup chrysogène, pour le moins. Donc ça fait beaucoup de travail et ça percute beaucoup les agendas des attachés de presse.
La politique, ça ne s'arrête jamais. Le métier de collaborateur, pas vraiment non plus. On est étiqueté, exposé, préjugé. On endosse son rôle partout, tout le temps, même dans l'espace privé. C'est un métier de l'ombre, mais qu'on peut difficilement cacher. Certains essaient parfois, comme Christophe, 32 ans, père de 2 enfants et ancien conseiller d'un président d'une région rurale.
C'est marrant parce que tu vas à un mariage, donc tu vas avec des gens que tu connais pas et tout, ils disent « tu fais quoi ?» Bon ben, t'as pas tout le temps envie de dire que tu travailles pour une majorité dans laquelle il y a des gens de gauche, parfois même des communistes. En fait, c'est ça le truc, c'est est-ce que t'as envie tout le temps de confronter tes convictions politiques avec d'autres ? Ben non. Enfin moi, je suis à un mariage et j'ai envie d'être content pour les gens, de manger, de boire et de danser, quoi. J'ai pas envie de discuter de est-ce que François Hollande a raison de dire, enfin, du coup, je disais que je travaille dans une collectivité. Ça devient une identité alors que c'est un travail. Enfin, moi, aujourd'hui, je travaille pas pour un homme politique. Je travaille pour un fonds d'investissement dans la finance solidaire. Donc, ce que je fais a un sens pour moi. Comme ce que je faisais auprès d'un président de région avait un sens pour moi. Sauf que, on me réduit pas à une identité comme on le faisait quand j'étais collaborateur d'un politique, quoi. C'est aussi dans la manière dont on décrit ces gens-là comme des apparatchiks. Donc on se dit, ce mec travaille pour un président de région, il fait ça aussi. Moi, je faisais pas ça, j'écrivais des trucs toute la journée. Je faisais pas des magouilles politiques pour récupérer tel ou tel truc. J'écrivais juste, je transcrivais la partie de la stratégie définie sur tel ou tel sujet, je l'adaptais à mon sujet, quoi. Je raccrochais en quoi le fait de créer une nouvelle crèche, ben ça venait renforcer l'attractivité de la région et du coup c'était bien et c'était pour ça qu'on avait soutenu ça. Mais c'est tout. Mais je pense qu'il y a des formes de fantasmes, quoi, et du coup qui viennent alimenter cette espèce de détestation qu'on peut entendre des hommes politiques, quoi.
Il m'arrive de pas avoir envie de dire ce que je fais parce que j'ai peur d'être étiquetée instantanément par la personne à qui je dis ce que je fais.
Anna a commencé sa vie politique il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle dirige le cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville française.
Enfin, c'est un exemple tout con, mais ça m'arrive souvent quand je rencontre des gens à travers mes enfants, enfin donc des parents d'élèves ou quoi. J'ai pas tout de suite envie d'afficher la couleur. Parce que je sais pas déjà ce qu'ils pensent, je sais pas s'ils sont politisés, je sais pas s'ils sont très très éloignés de moi politiquement. Et donc je me dis, comme entrée en matière, c'est un peu compliqué d'arriver en mode « bonjour, je fais ça, donc ils peuvent tout de suite se raconter que je suis comme ci, je suis comme ça, en tout cas. » Et surtout, en plus, là, dans des périodes électorales, j'ai encore moins envie de le faire.
Se dévoiler en tant que conseiller politique peut avoir des conséquences. Ce fut le cas pour François. Ce fan de François Hollande a été en charge des relations presse du Parti Socialiste.
C'était Alain Claisse qui me disait ça le jour où j'ai été embauché par le Parti Socialiste, donc j'ai quitté la mairie pour le parti. Il m'a dit « attention, vous allez être marqué au fer rouge ». Et je rigolais un petit peu doucement, je me dis « j'allais beaucoup mieux gagner ma vie, j'allais être à Paris ». Voilà, les conditions de travail au Parti Socialiste sont très très bonnes. Hein. Donc voilà, je rigolais un peu doucement. Et ben, c'est pas aussi simple que ça. Quand j'ai voulu chercher un appartement, à l'époque en location, j'ai eu des refus, parce que sur ma fiche de poste, il y avait écrit Parti Socialiste.
Quand on est conseiller politique, on fusionne avec son métier. On ne fait plus qu'un. On dépend entièrement de la personnalité pour laquelle on travaille, de ce qu'il ou elle représente, de l'image qu'il ou elle renvoie. On est soumis à son bon vouloir, en termes de rémunération, d'évolution de carrière, de reconnaissance. On y consacre son identité, son temps, sa parole même, puisque si on a été recruté pour notre engagement et notre esprit critique, notre expression citoyenne engage la personne pour laquelle on travaille, donc elle est limitée. Le travail du conseiller politique repose entièrement sur la confiance qu'un élu veut bien lui accorder, sans autre filet de sécurité.
C'est une relation qui est très spéciale parce que vous travaillez pour quelqu'un qui change d'avis, qui a des opinions, qui évolue, qui a des opportunités, qui en a moins. Et ça, vous avez très 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 peu de marge de manœuvre sur tout ça, avec des temporalités qui ne vous vont pas toujours. Moi, je sais qu'il y a des collaboratrices politiques féminines qui calculent leur grossesse en fonction des élections. Donc c'est vrai que c'est une temporalité qui est imposée, et c'est ça qui est très difficile. La particularité de travailler pour une personne et pas pour un collectif, c'est qu'il faut avoir quelque part de l'admiration, de l'attachement. Donc ça noue vraiment des sentiments personnels que vous n'auriez pas pour une entreprise, même si vous êtes très engagé. Mais c'est aussi dépendre du tempérament de quelqu'un, de est-ce qu'il s'est levé du bon pied ce matin, est-ce que ça va dans sa vie personnelle, et en subir potentiellement les répercussions. Donc c'est très différent, c'est aussi croire qu'une personne, par son parcours, va réussir à amener certaines idées ou à faire avancer certaines politiques publiques. Donc en soi, c'est aussi une confiance que vous portez qui est assez forte. Ça crée vraiment une relation spécifique qui est forcément un peu une relation de domination et qui peut faciliter ou favoriser les abus en tout genre. Mais elle peut aussi favoriser les grandes amitiés. C'est toute la dualité de la relation collaborateur-élu. Ce qui est particulier dans l'univers politique, je dirais, par rapport à l'univers privé, c'est qu'à la fois vous travaillez spécifiquement pour quelqu'un, mais en même temps, vous êtes entre guillemets un acteur du politique, et donc il y a des compétitions entre les collaborateurs pour la proximité avec l'élu, qui est une des premières, les premiers sujets de compétition entre les collaborateurs, mais aussi plus généralement pour une part d'influence. Et donc, c'est un métier qui, du coup, charrie beaucoup d'ego, peut charrier donc parfois de la méchanceté. Enfin, une de vos principales missions quand vous êtes collaborateur, c'est de chercher l'information, parce qu'elle ne vous est pas donnée. Donc, c'est un travail qui prend énormément de temps, il y a beaucoup de charges mentales, et ça crée beaucoup, pour moi, une part de souffrance. Et je pense que c'est dû à cette ultra-personnalisation qu'on connaît en France, mais qui existe aussi beaucoup, qui est énormément centrée sur la figure des élus en personnifié, et qui pousse les collaborateurs, par effet de ruissellement, si je puis dire, à se comporter de la même manière. Comme ce sont des métiers de passionnés et des gens qui font énormément d'heures, on est beaucoup plus sujet au risque de burn-out, au risque de fatigue. Et aussi avec ce côté que votre destin vous échappe et que vous n'êtes pas décidaire de quand vous montez, quand vous allez sur un sujet, mais vous suivez votre élu, enfin quand ça se passe bien. Et c'est assez compliqué pour vous construire un chemin de vie qui vous convient, qui correspond à vos envies. À des moments où on a beaucoup envie de travailler, d'autres moins. Et on n'a pas du tout cette capacité d'ajustement, quoi. Sur le rapport à l'argent, encore une fois, c'est comme sur le rapport à la citoyenneté, c'est comme sur le rapport à pas mal de choses, c'est assez original, hein. C'est-à-dire que les politiques n'aiment pas parler argent avec leurs collaborateurs. Les salaires, notamment à l'Assemblée nationale, dans beaucoup de mairies, peuvent être assez faibles, hein. Donc c'est des gens qui travaillent de nombreuses heures et qui sont pas forcément très bien rémunérés. Et de manière générale, il y a un peu un sujet avec le code du travail, c'est-à-dire que c'est pas considéré comme une norme indépassable qui fait partie de la loi, mais plutôt comme quelque chose avec lequel on est dans une situation spéciale, c'est la crise. De toute façon, au nom de l'intérêt général, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, on a effectivement, par exemple, des retards de paiement, on a aussi des gens qui vont pas du tout être payés à la juste considération de leur travail, des stagiaires qui font énormément d'heures ou des choses comme ça, sans que ça n'interroge le politique, y compris à gauche, sur les conditions de travail de son équipe, sur sa capacité, et qui renforce forcément quelque chose. Je pense notamment aux campagnes, c'est les bénévoles qui ont la capacité de ne pas être payés. Et donc, ça favorise d'autant plus quand même un entre-soi politique où il faut quand même, pour beaucoup de campagnes, se passer à Paris en plus, ou en tout cas nécessite une centralité, d'avoir parfois des revenus pour pouvoir se permettre de faire campagne et d'être recruté collaborateur après. Et donc, c'est quand même un filtre qui n'existe pas partout, hein. Il y en a quand même qui sont rémunérés, mais qui est quand même important. Ah, moi, cette organisation du travail, c'est pas qu'elle me lasse, c'est que je la trouve indigne de diriger et d'être héritière de l'argent public pour diriger la vie des gens. Enfin, et ça montre d'ailleurs que l'argent est une limite pour l'être humain. parce que là, c'est un peu le côté, vous avez un peu le nombre de personnes que vous souhaitez, que vous engagez, etc., pour régler tous vos problèmes. Donc, ça ne vous dérange pas d'avoir plusieurs personnes qui font les mêmes choses et qui se tirent entre les pattes, parce que c'est, finalement, ce n'est pas vous qui payez, ce n'est pas lui qui paye directement. Donc, c'est quand même très problématique. Ah non, moi, je serais pour une simplification et puis pour, quelque part, un alignement un peu plus classique sur ce qui se fait dans le management, j'entends, de bonne qualité dans le privé, avec des parcours, avec des gens dont on envisage la sortie. Je ne considère pas que le travail doit être un combat. Vous n'êtes pas extrêmement bien payé, vous travaillez tout le temps, vous donnez beaucoup.
C'est quand même des boulots qui sont précaires, de fait.
Anna a commencé sa vie politique il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle dirige le cabinet d'un adjoint au maire d'une grande ville française.
On tend à l'oublier, mais on est quand même sur un siège éjectable. On a des contrats qui font une page et demie, qui sont rédigés quand même vraiment sur un coin de table. Et en termes de droit du travail, j'imagine que ça passe. Mais franchement, il y aurait beaucoup à dire. Donc on est très peu protégés, surtout quand on est dans une collaboration avec un élu. Alors, à l'Assemblée, au Sénat, c'est encore pire parce qu'ils sont employés directement par le député ou le sénateur. Mais un matin, l'élu peut arriver en disant « En fait, j'ai plus envie de te voir ». Il n'y a pas de filet de sécurité, filet de rappel là-dessus. Donc, beaucoup de collaborateurs dans des grandes institutions comme l'Assemblée, le Sénat, mais y compris dans les grandes villes, essayent de s'organiser, de créer quand même des syndicats de collaborateurs, mais et font avancer les choses, et c'est tant mieux. Mais il y a quand même cette difficulté, cette réalité qui fait que on est sur un siège éjectable un peu permanent. Alors, quand ça se passe bien, on n'y pense pas. Et quand on est avec quelqu'un d'à peu près sensé, on se dit que quand bien même il y aurait des difficultés qui se présenteraient, on pourrait s'arranger pour organiser les choses. Mais enfin, malheureusement, il y a quand même un certain nombre d'élus qui ne sont pas tout à fait sains d'esprit et qui peuvent se retrouver aussi dans un rôle d'employeur qu'ils ne connaissent pas. Et ça donne lieu à des dérives très fortes de harcèlement ou des choses où... Ou en fait, c'est aussi parce que eux-mêmes sont mis comme ça dans une situation qui n'est pas, ils sont pas forcément formés, ils ont pas été employeurs à d'autres moments dans leur vie. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers qui soient aussi précaires en termes de contrats.
Pourquoi c'est pas plus encadré ? C'est, je pense, qu'il y a un profond et un mépris et une méconnaissance du travail des collaborateurs. Déjà au niveau global, je pense à l'affaire Pénélope Fillon, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de... Pour le grand public, les collaborateurs politiques, il y a la même défiance qui est nourrie que vis-à-vis du personnel politique. Donc de toute façon, c'est des profiteurs, c'est des gens... On ne sait pas très bien ce qu'ils font, ils coûtent de l'argent public. Donc on est déjà sur une profession qui est mal considérée. Et un peu ce fantasme de... les collabs, c'est des collabs ministériels qui sont payés 8 000 euros, etc. Alors qu'il y a énormément de collabs dans les petites mairies, dans les régions, dans les départements, partout. Qui ne touchent pas des salaires du tout mirobolants. Il y a un manque de volonté politique, parce que c'est quand même aux élus de s'occuper de ça, et on a vu les nombreux scandales à l'Assemblée nationale, au Sénat, de harcèlement moral, de harcèlement sexuel vis-à-vis des collaborateurs, et que finalement, il y a dans la toute-puissance de l'élu, souvent une manière de ne pas vouloir contrôler, et c'est vrai que quand il y a eu par exemple l'affaire Fillon, on a eu plein de députés qui ont dit « Non mais moi je recrute qui je veux comme collaborateur », et donc il n'y a pas cette notion de mise quand même argent public, et que c'est quelqu'un qui travaille quand même pour le public avant de travailler pour vous. Et ça, c'est pas du tout ce que, à mon avis, les collaborateurs ressentent au quotidien. Donc il y a un manque de volonté politique qui est assez choquant. Et donc ça pose sur la question d'empathie et de capacité à animer un espace de travail qui soit sain, ça pose pas mal de questions. C'est vraiment important de protéger, de reconnaître ce métier, tout simplement parce qu'il participe à l'élaboration de la chose publique et des politiques publiques. Et donc, en soi, il ne peut pas être une zone grise comme il l'est actuellement, sur lequel les citoyens n'ont aucune visibilité, n'ont aucun contrôle. Ce n'est pas le sujet, parce qu'on ne va pas se retrouver avec des citoyens qui décident des collaborateurs. Mais je veux dire, le fait que ce soit une zone grise ne renvoie pas à la transparence des décisions publiques, à la transparence de l'explication de ce qui se fait dans la chose publique. Et ça, en soi, c'est pour moi, c'est dérangeant. Donc, j'aimerais vraiment que ce métier soit reconnu. Et j'adorerais que, par exemple, pour les présidentielles, il y a un candidat qui propose une loi sur le statut de collaborateur, qu'elle soit associée, bien sûr, à des contrôles, parce qu'il peut y avoir des abus aussi, mais aussi à des avantages, à de la protection de ce statut-là, et qui interroge, finalement, ce rôle qui est totalement méconnu dans la société et qui est pourtant essentiel à la politique et à la bonne gestion d'un pays.
C'est aussi ça, être conseiller politique. être au contact de personnalités puissantes, mégalos, erratiques, léonines, épuisantes. Parfois, c'est aussi faire l'objet de harcèlement, à l'abri des regards. Étienne a 35 ans, il fait des allers-retours entre l'enseignement et la politique depuis 15 ans. Aujourd'hui conseiller auprès d'une maire, il revient sur une expérience particulièrement douloureuse d'une campagne électorale.
Il m'est arrivé de rencontrer des personnes vraiment méchantes, des élus, des candidats, qui sont des personnalités nocives. Je pense pas que ça arrive plus qu'ailleurs. Je pense que dans tous les milieux professionnels, on en rencontre. Mais ça existe aussi en politique. Alors, ça peut avoir des conséquences plus terribles parce que c'est des personnes à qui on peut confier potentiellement des responsabilités pour la collectivité. Mais de fait, ça existe. Et une fois, j'ai eu, comme ça, dans une campagne, à connaître une personne qui avait une personnalité borderline, quoi. Donc, elle était très convaincue par ses engagements écologistes et en même temps extrêmement brutale avec les êtres humains. Elle avait décidé de se venger sur des personnes qui avaient travaillé, des collaborateurs et des collaboratrices de la campagne. Ces règlements de compte, elle a décidé de les mener dans une sorte de cabale avec des mails extrêmement violents où elle demandait qu'on organise un jury en interne pour demander des comptes à telle ou telle personne, et ça m'a ulcéré. J'ai trouvé que c'était s'en prendre à des gens qui avaient été sincères, qui ont fait ce qu'ils ont pu, dans des conditions qui n'étaient pas faciles, mais qu'en tout cas, rien ne justifiait qu'on puisse les traiter de la sorte. Ça a été un moment très brutal parce que il a fallu qu'on s'oppose à cette personne. Alors, on était plusieurs, hein, j'étais pas le seul. On a, à quelques-uns, décidé de ne pas la laisser faire. Et ça s'est terminé en rupture extrêmement violente. Ça ne dit évidemment pas que la politique, c'est ça, mais malheureusement, ça peut exister. Et on sait que dans des organisations politiques, quelles qu'elles soient, de droite, de gauche, quelle que soit la couleur politique, eh bien, on a souvent, comme ça, des règlements de compte très brutaux qui font que ça laisse des traces. Ça laisse des traces personnelles, intimes, des mauvais souvenirs, et parfois, ça peut aussi dégoûter des personnes et faire que, eh bien, elles disent, en fait, tout ça, c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Et comme disait mon roi avec cette belle formule, parfois quand on fait partir tous les dégoûtés, eh bien, il ne reste que les dégoûtants.
Et il y en a des dégoûtants en politique. Le monopole masculin y est difficile à briser et les femmes élues sont toujours des intruses dans les sphères de pouvoir. Dans l'ombre, c'est parfois encore pire.
285 élus, fonctionnaires, collaboratrices, associatives, militantes, 285 femmes qui travaillent dans le milieu politique et qui dénoncent des insultes, des remarques déplacées, mais aussi des agressions, des pressions pour obtenir des faveurs sexuelles.
Ouais, le milieu politique, c'est un milieu qui est quand même assez violent, assez dur, même très dur. Enfin, moi, j'ai vu des choses, effectivement, où on n'imagine pas que, enfin, des gens se parlaient très mal, mais même parfois avec des menaces quasiment physiques, hein, dans des manières, moi, ça m'est arrivé, hein, de me retrouver en face d'un député qui faisait quasiment 2 mètres de haut et de large, qui était pas loin de me menacer physiquement en me disant « Vous allez retirer cet amendement ». Donc oui, là, il y a un côté un peu qui est très violent, mais de toutes les manières, on est dans un univers où les gens sont là parce que d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire que l'élu, il est là parce qu'il a réussi à déjà sortir tous les autres qui voulaient sa place au sein de son parti pour être désigné, pour être en bonne position sur la liste, ou un député, enfin, je veux dire, se faire investir par son parti politique pour être ou tête de liste, ou enfin bien placé sur une liste, ou député, candidat dans une circonscription. C'est le fruit de batailles internes dans les partis qui ne peuvent se faire que par la violence. Alors évidemment, c'est pas heureusement que de la violence physique, mais c'est écarter, trouver sa place, faire en sorte que l'autre trébuche et soit plus sur son chemin. Il y a une violence inhérente, en fait. On n'est pas élu juste parce qu'on est super, quoi. Donc on est élu quand même parce qu'on a, joué des coudes, on a poussé, on a, pour mille raisons, on a réussi à se mettre au bon endroit au bon moment et se faire désigner pour y aller, quoi. Donc derrière, bah, ça, ça a un impact évidemment sur tout le fonctionnement de la vie politique. Et peut-être que par rapport à d'autres milieux, les politiques s'autorisent plus de choses. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, de me dire, mais après tout, ils font la loi, voilà, ils prennent des décisions pour la société, et eux-mêmes s'appliquent quand même assez peu tout ça, ou avec un temps de retard. On peut vite se retrouver enfermé dans quelque chose qui peut être toxique, hein. Et malheureusement, des collaborateurs qui ont subi des violences et du harcèlement moral, il y en a pléthore. Derrière la porte du bureau, on regarde pas forcément ce qui se passe. Ça peut être des demandes qui dépassent largement le cadre prévu du travail de la collaboration. Donc, on peut se retrouver à gérer des trucs qui relèvent de la vie privée. Ça peut être une charge de travail qui est démesurée. Heureusement, ces situations, elles sortent maintenant et les collaborateurs qui ont vécu ça dénoncent. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est une réalité. Maintenant, il n'y a pas que ça, heureusement. Sinon, moi, je serais plus là. Sur les questions de violences sexistes et sexuelles, j'ai pas parlé des agressions que j'ai subies quand je les ai subies, et j'en ai subi plusieurs. Parce que j'étais seule, en fait, parce que je savais pas que c'était je savais pas que c'était pas normal. Parce qu'on parlait pas de tout ça, c'était avant MeToo. Est-ce que j'aurais dû parler? J'aurais dû parler, oui et non, parce qu'on peut pas non plus forcer les victimes à parler et les rendre responsables du fait de ne pas avoir parlé. Je trouve ça fou d'avoir pensé que c'était en partie de ma faute et que c'était normal, quelque part, enfin, que bon, y avait pas mort d'homme. Donc, je sais pas si j'aurais dû parler, mais si, je pense que j'aurais dû parler. Mais je suis pas sûre que c'était audible à l'époque. J'aurais dû parler pour moi et puis pour d'autres aussi. C'est ça que je voulais dire, c'est que cette violence, parfois ce sont des agressions en tant que telles, et puis parfois c'est la manière dont on parle des choses. Et je pense que quelque part j'ai fait partie aussi de ce système, c'est-à-dire telle nana, que ça faisait rire tout le monde de se dire qu'elle avait couché avec un tel et de colporter ses rumeurs et de se dire, oh, de toute façon, celle-là, machin. En fait, moi, je pense que j'ai participé de ça parce que je me rendais pas compte, en fait, que c'était hyper violent et que même en étant une jeune femme dans ce milieu-là, j'avais pas forcément compris qu'on devait se serrer les coudes. J'aurais peut-être dû me taire à l'époque. On n'est pas complètement au bout des changements de comportement en politique, notamment sur les violences sexistes et sexuelles. Et c'est quelque chose que moi j'ai vu les choses changer en fait, parce que j'ai commencé voilà au début des années 2010, avant MeToo. Ça bouge, mais ça bouge pas assez vite. Donc on en est encore à devoir faire entre guillemets un MeToo politique. Voilà, c'est un milieu où je pense il y a eu énormément d'abus. Enfin comme partout, ils ont été longtemps tus. Et je pense que quand on est une jeune femme qui commence dans ce milieu-là, on arrive un peu, voilà, des étoiles plein les yeux en se disant qu'on va faire changer le monde, hein, parce que, encore une fois, moi, je suis arrivée avec, voilà, un côté un peu idéaliste. On est des proies faciles. On est des proies faciles. Parce que il y a le pouvoir, parce que il y a comme ça une asymétrie de fait, hein, qui est liée à ce milieu-là. Et, voilà, on n'est pas au bout et il faut continuer à, et il faut parler, il faut, même si c'est difficile, et il faut faire en sorte que les responsables de ces agissements, ne puisse plus être à nouveau élu et que voilà que la honte maintenant elle change sérieusement et définitivement de camp et que ce soit pas juste une question un sentiment de honte mais juste rédhibitoire pour être élu. Et donc ça les partis ils ont leur responsabilité là-dedans.
Vous venez d'écouter Les Ombres, un podcast de Mao Chaudouet-Delmas. Produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Thomas Loupias. Illustration, Ruben Cohen. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée.